Alors, on est très heureux d'avoir une exclusivité aujourd'hui, mesdames, messieurs. Très heureux de l'avoir en studio aussi, Marc-Antoine Desjardins. Exclusivité, donc on fera 20 minutes avec uniquement le sujet politique, parce que c'est très important. Cependant, on lui a tout de même demandé de nous présenter une chanson d'occasion aujourd'hui. Marc-Antoine Desjardins, bonjour.
Bonjour, Mme Stanclé, comment allez-vous?
Très, très heureuse de vous recevoir.
Partagé.
Écoutez, ça n'a pas été facile pour vous.
Non.
Vous avez été là en pleine forme, vous êtes venu à ce micro, beaucoup d'espoir, un renouveau, un candidat qui changeait la ville de Montréal. Beaucoup de gens vous ont suivi. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ah, j'étais sûr que vous alliez me poser cette question. Qu'est-ce qui s'est passé, Marc-Antoine? Ben, écoutez, premièrement, merci de l'occasion. Un moment qui n'a pas été facile. Je dois aussi vous dire d'entrée de jeu que le 7 juin dernier, mon père est décédé. Donc, la campagne électorale est arrivée au pire moment de ma vie, comme on dit, la nuit sur Rubilis. Alors, ça allait être un poids. Puis, je vous dirais que le 23 septembre dernier, c'était son anniversaire. Et, alors, restons un peu chaud aussi.
Oui, allez-y, vous pouvez.
Et d'aller en plus, je suis dans un vélo.
Alors, enlever la veste. Hein.
Donc, c'est ça. Et le 23 septembre dernier, c'était l'anniversaire de mon père de naissance. Il aurait eu 76 ans. Alors, tout ça pour vous dire que ça a été une espèce de tempête parfaite où est-ce que la campagne est arrivée à un moment de ma vie où est-ce que j'avais... c'était difficile au niveau moral, au niveau du deuil familial, au niveau de l'expérience. Et une campagne électorale, vous savez, ça demande énormément d'énergie, surtout quand on est un peu le négligé, celui, un de ceux qui veut préconiser une troisième voie. Donc, c'était doublement ardu pour moi, partant d'une situation personnelle très douloureuse, très difficile à vivre après une longue descente aux enfers. Dans le fond, c'est pas compliqué. Mon père a commencé à être malade lors de la partielle du plateau en 2019, à laquelle je me suis présenté, puis quand même, qui n'a pas été une mauvaise campagne. Tu es arrivé troisième par 200 quelques voix contre Ensemble Montréal à 15,6%. On a fait une superbe campagne à l'époque, je trouve, avec très peu de moyens, encore une fois, pour encore une fois personnifier la troisième voie. Alors, sur deux ans, la santé de mon père a périclité et malheureusement, il est décédé en juin dernier. Fait que ça a été très difficile de tout orchestrer aussi avec la création, la mise sur pied d'un nouveau parti, le recrutement de candidats, le financement et tout ça. Donc, c'est certain que c'est une tâche colossale pour un parti qui commence. Et là, vous me posez la question, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que au tournant à la fin du mois de septembre, on s'est dit qu'on voulait, on voyait les sondages, on voyait un peu où est-ce qu'on, que malheureusement, l'absence de visibilité qui, à notre avis, pouvait nous permettre de percoler dans la tête des gens, ben, ça rendait la donne encore plus compliquée parce que les gens le narratif des deux partis traditionnels, des deux vieux partis, c'était pratiquement la seule chose qu'on voyait. Mmh. On voyait effectivement M. Onus et ma formation et nous, RPM, qui essayaient, on essayait de se faire vraiment une place, là, tranquillement, pas vite, mais c'était très ardu. Et au cours de l'été, avec différentes formations politiques aussi, c'est pas le seul là, qu'on a contacté, qu'on se parlait de façon officieuse, on essayait de créer justement cette alternative en ralliant pour Montréal. C'est ça avant tout.
Oui, parce que c'est ce que vous aviez. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai invité, puis moi je le dis, à Radio Centre-Ville, moi j'invite tout le monde, parce que c'est la démocratie qui parle. Hein.
Absolument.
On sait qu'il y a deux partis en ce moment là qui sont partout invités, mais moi je trouvais ça important d'avoir votre voix, puis vous aviez une voix extrêmement nouvelle et intéressante, puis voir quelqu'un aussi qui défend les personnes qui sont de la société d'assurance automobile, votre parcours humain.
Ouais.
Votre passion pour la langue française, c'était quelque chose de nouveau. Maintenant, on sentait, et avec raison, cette colère de ne pas avoir aucune couverture médiatique. Et on sait très bien que sans avoir aucune couverture médiatique, c'est très difficile d'avoir des voix et qu'on pense à vous pour voter. Malheureusement, c'est comme ça la politique. Il faut avoir une couverture médiatique. Il faut être vu et entendu. Et ça, On l'a compris cette façon. Puis vous allez me corriger si je me trompe, mais j'ai l'impression que ce mariage, c'est la résultante de ça. C'est-à-dire que, vous allez me dire, Sophie, vous avez tort ou vous avez raison, mais j'ai l'impression que vous êtes dit, ben là, il faut qu'on se fasse voir. Peut-être en se mettant ensemble, on va être plus entendu et plus vu. Est-ce que c'est ça?
Ben exactement. Je veux juste faire un parallèle aussi avec la campagne de Longueuil, où est-ce qu'on voit, je pense qu'au tout début, sauf erreur, j'ai pas vraiment suivi l'actualité de la campagne de Longueuil, mais je pense qu'il y avait 5 candidats au départ.
Oui.
Et là, il y en a 4. Un de ceux s'est joint à Mme Fournier. Ce que je veux dire, c'est qu'on voyait vraiment les débats où il y avait 4 candidats. Même M. Létourneau, qui était à même pas 5% dans les sondages, ou à peine, ben, il était là. Mm-hmm. Il était carrément... Alors, il y avait une visibilité. Alors, je trouve malheureusement qu'il y a une espèce de démocratie à géométrie variable à Montréal, au niveau de la visibilité de tous les points de vue, tout aussi divergents soient-ils, qu'on parle d'Action Montréal, qu'on parle des candidats indépendants, Luc Ménard, qu'on parle avec Montréal 21, qu'on parle de Mouvement Montréal et d'autres partis, et nous, à RPM, à Ralliement pour Montréal, malheureusement, on avait l'impression qu'on était vraiment, qu'on nageait à contre-courant, et c'était très difficile parce que je le voyais sur mon fil Twitter, mais on vous voit pas, puis Monsieur Arcan, Paul Arcan, appelez-le, invitez-le, on voyait Monsieur Denis Coderre à Marie-Louise Arsenault, à semaine des 4 juillet avec tel candidat, on parlait du, tu sais, on avait une espèce de géométrie variable, justement, de sensibilité à géométrie variable au niveau de l'exposure médiatique, puis ça, je trouvais ça très, très frustrant pour les lecteurs. Pas tant pour moi. Moi, je veux dire, j'ai la peau solide, j'ai la peau épaisse. Mais on voyait d'une ville à l'autre qu'il y avait complètement 2 ou 3 mondes médiatiques qui s'offraient à l'électorat. On voyait à Laval, on voyait à Longueuil ce qui se passait, puis on voyait à Montréal, puis on se dit, coudon, j'avais goût de sacré, mais je ne sacrerais pas. Mais pourquoi qu'on ne fait que montrer un prisme de candidature, puis on ne montre pas l'entièreté de la délégation? Ça, je trouve ça foncièrement injuste, parce que sous les enjeux de logement, de mobilité, de transport, de l'habitation, la sécurité publique, tous les partis, on a quand même des points de convergence. On ne tombe pas des nues personnes en disant qu'on veut une meilleure sécurisation de nos quartiers, un logement plus abordable. Alors oui, c'est certain qu'en bout de ligne, Mme Stanké, je trouvais ça décevant de voir le peu de battage médiatique qu'on avait. Oui, il y a une façon aussi d'aborder les médias. On a appris beaucoup. J'ai pas rien perdu. J'ai appris énormément, Mme Stanké. Et je peux juste vous dire tout de suite, c'est pas la fin de mon parcours. Ce n'est que le début.
Non, okay? Le sens. De toute façon, ce micro, oui, ça serait une perte pour la démocratie de vous perdre comme politicien. Là.
Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'effectivement, on regardait pour créer... pour consolider les alternatives de la troisième voie, malgré des divergences fondamentales tant au niveau de la langue que de la vision du SPVM, on s'est dit qu'on était capable de marcher ensemble et justement de rallier nos deux solitudes. Donc oui, il y avait une opportunité à notre avis.
OK, qui est venu vous chercher?
Durant l'été, à différents moments, on se parlait de façon officieuse. On pouvait se contacter officieusement, des candidats ensemble.
Il y a eu d'autres discussions que M. Roumès
Avec d'autres formations politiques,
bien sûr. Ah oui, vous avez rencontré les autres aussi.
Bon, on a discuté avec d'autres formations politiques pour essayer de créer justement une alternative pour rallier les gens, mais la nature humaine étant ce qu'elle est, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Et ce qui est arrivé, c'est encore une fois, c'était pas ma décision première. On est une formation avec des statuts,
avec des règlements,
un CA. Mais on s'est dit qu'il y avait une opportunité avec, si on pouvait justement rallier les deux solitudes avec la base électorale de M. Onus, qui dans le fond ne vote pas pour moi, et ma base ne votait pas pour lui. On s'est dit, on pouvait peut-être voir à faire un mariage circonstanciel, pas une fusion. Notre parti existe encore, hein, on est toujours là. Et on s'est serré la main sur la non-modification de la charte de Montréal et le concept.
Vous êtes serré la main.
On s'est serré la main.
Ça veut dire qu'il n'a pas tenu sa parole.
Il n'a pas tenu sa parole. Ben non, absolument. Et un contrat, madame, regardez, je suis avocat, puis lui est étudiant en droit. Un échange de consentement, il peut être écrit ou verbal. Alors, à ce niveau-là,
parce que nous, on s'est tous...
Oui.
S'il y a une incompréhension,
oui,
on s'est tous dit, mais comment ça se fait que M. Desjardins va avec M. Holmes? Oui. Au niveau de la langue française, vous êtes vraiment à l'opposé. Oui. Et là, vous venez de nous apprendre en direct, aujourd'hui, en exclusivité, que finalement, c'est M. Holmes qui n'a pas tenu sa promesse. C'est-à-dire que ça a été fait... Mais quand il est arrivé devant les micros, puis devant tout le monde, il a dit non, je continue comme... C'est
après
ça?
Après le 1er octobre, après la date butoir, où est-ce que nos candidatures s'étaient liées au mouvement, simplement par question stratégique, par question de visibilité, par question qu'on voyait que, bon, il y avait un peu plus d'avance sur nous au niveau des pancartes,
oui,
tout ça.
Oui, tout à fait.
Et bon, là, je pourrais pas tout vous dire, okay. la suite va venir après l'élection, mais oui, effectivement, on s'était serré la main, puis vous pouvez juste regarder le point de presse du 30 septembre, il a dit, là, on touche pas la Charte de Montréal. La Charte de Montréal, c'est le statut linguistique de la ville, et de toute façon, légalement, il sait, il n'a pas le pouvoir juridique de juridiction. La langue, c'est la juridiction provinciale. Les villes sont des créatures provinciales. Mmh. Alors ça a été bien sûr une pierre d'achoppement, parce qu'on voyait qu'après le fait, malheureusement, il n'y a pas moyen de s'entendre à ce niveau-là. Oui, il y a des divergences d'opinion. Moi, je lui disais, ramène-toi au centre, on va être capable d'aller chercher tout un électorat, parce que le pouvoir se gagne par la majorité silencieuse et non par les extrêmes. Mmh. Alors, il y a un choix qui a été fait de sa part, et malheureusement, bon, on voit le résultat aujourd'hui, il fait du surplace dans les sondages. On aurait pu, il y a des sondages qu'il met à 5, des sondages qu'il mettait à 10 avant la fusion, il était à 12, mais bon, encore une fois, c'est dans la marge d'erreur. Mmh. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas à 20 %, là. Malheureusement, il est revenu dans ses positionnements.
Alors, c'est la politique, là, si c'est ce qu'il y a de plus crasse dans la politique que vous avez vécue, c'est-à-dire quelqu'un avec qui vous faites un mariage, hein, quand on fait un mariage.
Un mariage blanc. Madame, c'est un mariage blanc.
Un mariage.
Il n'y a pas eu consommation. Dieu merci.
Il faut mettre un peu d'humour aujourd'hui.
Ben oui, c'est vendredi.
Spiron, bien, merci d'être là en exclusivité avec nous aujourd'hui. Puis c'est pas, je sais que c'est pas évident ce que vous éprouvez en ce moment. Surtout après cette trahison. Quand quelqu'un nous dit on se met ensemble et que finalement, devant les caméras et devant tout le monde, il dit que c'est pas ça. Ça doit être extrêmement difficile.
Ben, ça devient intenable. Et ce qui est arrivé, c'est aussi... C'est parce que si on continuait dans nos deux solitudes, dans nos deux coins, son parti, le mien, contre Coderre et Plante, on n'avait aucune chance de gagner, de se faire voir. Peut-être que j'avais 5 % de part, lui aussi, 5-8. Là, pour ça, j'étais à 6, il était à 9 ou 10. Bon. Bref, on était sous la barre du 10 % tous les deux. Ensemble, si on faisait bien, on jouait bien nos jeux, on pouvait marteler un discours d'unité, de rapprochement des deux solitudes, mais c'est tout à fait le contraire qui est arrivé. Ouais. C'est exactement l'opposé.
Oui.
Alors, ce qui est dommage. Et malheureusement, on n'avait plus de marge de manœuvre au niveau de la députation, mais au niveau de la façon dont on était agencé. J'aurais dû, dans ce cas-là, garder nos candidats RPM, y aller, après ça, faire un choix au niveau des chiffres. Mais on s'est dit, on va faire un acte de bonne foi. Mais des fois, la bonne foi se présume. Et ben voilà.
Alors, on va faire la pause musicale. Vous allez nous présenter juste le temps aussi de reprendre vos émotions. On va rentrer dans les émotions après, par contre, parce que ouais, ça, c'est pas évident.
Beaucoup.
C'est ça. Et puis, on a besoin de les entendre aussi, parce que je sais que, j'ai même regardé ce matin, aujourd'hui, les gens m'engueulent là, sur Facebook en disant ouais. Comment ça, vous le recevez une deuxième fois? Je m'en fous, mesdames, messieurs. Moi, je suis pour la démocratie. Puis, vous pouvez toujours m'engueuler. Ça me fait rien du tout. Alors, on écoute cette musique?
Oui, Daniel Bélanger, la chanson Signal de l'album Cri, qui est excellent, c'est merveilleux.
Quand même un peu un peu l'écran.
Messieurs, une exclusivité de Radio Centre-Ville, Info Centre-Ville aujourd'hui à parole de politicien. Marc-Antoine Desjardins est là pour nous parler de ce mariage, ce divorce et ce retrait de la vie politique pour un moment, on l'a dit. Donc finalement, pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute, c'est M. Holmes qui n'a pas tenu sa promesse au niveau du français, qui vous l'avait dit. Vous avez dit, moi, je finalement, cette alliance, ce mariage va se faire parce que je, au niveau du français, on va s'entendre, je ne ferai pas de Montréal, une ville bilingue, il ne l'a pas tenue. Donc maintenant, après, que ce qui s'est passé, c'est que combien de temps vous avez été mariés finalement? Juste deux semaines?
C'est un mariage de courte durée, effectivement, mariage blanc. Y a un film drôle, bon, parce que je pense que c'est avec Julia Roberts, c'est Runaway Bride, qui court en dehors de l'église. Ben, c'est un peu ça qui est arrivé. Mais faire une blague à part, c'est que c'est parce que dès qu'on a vu que finalement ça allait pas, qu'il y avait pas d'alliance, okay, concrètement, ouais. Et que c'était finalement du vent de dire qu'on voulait relier les deux solitudes pour créer une alternative. Le seul moment où on aurait voulu justement modifier la Charte de Montréal, c'était pour demander à Québec qu'on fasse une espèce de co-mairie où est-ce qu'on a justement, on allait amener un ticket Ballarama Desjardins, puis c'est écrit sur certaines pancartes, d'ailleurs, c'était ça la dynamique qu'on voulait amener. Mais après ça, il s'est recadré dans ses positions que j'appelle extrême, du moins non fondée légalement, juste pour nicher son électorat, qui a le droit d'avoir quelqu'un qui parle des enjeux pour eux autres, mais à quelque part, faut qu'on regarde aussi la réalité juridique du Québec, puis linguistique, l'intérêt linguistique. Montréal ne sera jamais Toronto. Et tous les Montréalais, croyez-moi, Montréal ne sera jamais Toronto, et on va rallier le discours progressiste pragmatique. On doit rallier tous les gens qui sont francophiles, peu importe leur origine, la couleur de peau, les Québécois de souche, de branche, qui font partie du tronc commun québécois, qui font partie du Québec, qui sont des citoyens de part entière. Je vois les discours très enflammés d'une certaine frange électorale, de l'électorat justement, qui salue les initiatives de bilinguiser, ça ne dit pas, de rendre Montréal bilingue et de revoir le statut. Écoutez, il y a une réalité, là, je pense qu'il y a deux solitudes, puis on doit adresser ça, mais je pense qu'on doit le faire de la bonne façon. Et en ce moment, je pense pas qu'on rapproche les gens, on divise encore une fois. Malheureusement, je sens qu'il y a un vent de division qui anime Montréal. C'est un enjeu de clivage que vous voulez amener. Et j'étais très surpris lorsque j'ai vu lorsque j'étais fait. Ben, j'ai fait part de. J'étais présent à la conférence du 12 octobre. Je peux pas vous en dire au complet tout, mais ce qui a été dit, c'était pas ça, ce qui était prévu d'être dit. Comme ça, OK? Et je vous en dirai plus après, mais
C'est extrêmement difficile. Bon, on a vu que les gens débarquent. Hein? Il y a beaucoup de gens que vous êtes allés chercher qui se retirent. Ouais. À quel moment on peut vivre à l'encontre de ses convictions? À quel moment vous êtes dit, c'est terminé, parce que ça n'a pas été long? D'abord, vous avez reçu beaucoup de gens de haine, hein. J'ai eu les messages partout, les gens qui comprenaient pas, un traître.
Et autant allez-y, continuez.
Après, justement, tout le monde s'est posé la question, parce que moi-même, tout le monde sait que je suis porte-parole du mouvement Québec-Français, que la langue française, pour moi, c'est très important. Donc, ce dossier que vous portiez vraiment fièrement, et là, je viens de vous entendre encore sur le français, À quel moment on peut vivre à l'encontre de ses convictions, et à quel moment ça a fait « OK, je divorce, je ne suis plus capable ». Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête?
Ben c'est ça, c'est parce qu'à un moment donné, comme chef de parti, j'avais une responsabilité, encore une fois, rapidement, lorsque j'ai vu que la mayonnaise ne prenait pas, finalement, et que le mariage était impossible sur ces enjeux-là, ben, ça emportait tout le reste, les points, ça emportait tous les points de convergence, parce que si fondamentalement, on ne s'entend pas sur ce qui était les pierres, justement, les enjeux de clivage pour nos deux formations, puis qu'on ne pouvait pas marcher de façon commune ensemble pour justement tenir le discours qu'on avait dit, ah, on va, tu sais, me serre la main, on va rallier les deux solitudes, ben, Christy, comme on dit en anglais, talk the talk, walk the walk, je veux dire, faut que les bottines suivent les babines. À un moment donné, on n'est pas pour boucheter le monde. Puis c'est ça. Alors moi, j'y croyais sincèrement. Est-ce que c'était effectivement... oui, c'était une erreur. Oui, je m'en cache pas. Avec le recul. Mais ça aurait pu marcher parce qu'on avait... Alors, le momentum, ça aurait pu marcher.
Ce mariage était une erreur?
Ben, avec l'écoulement du temps, bien sûr. Mais ça aurait pu marcher. C'est ça qui est dommage. Mm. Je ne comprends pas. Ben, on comprend par après, mais je ne comprends pas l'opportunité d'apporter une visibilité. Dans le fond, y apporter une visibilité en faisant cette déclaration-là, ce rapprochement-là. On s'est mutuellement apporté une visibilité pour ce contexte-là. Une visibilité médiatique.
Oui, vous étiez partout, là.
Ben, ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est que on a malheureusement laissé tomber une large part de l'électorat qui comptait sur une troisième voie crédible. Alors, tout le monde tous ceux qui ne sont pas dans les vieux partis disent « Ah, moi, je suis la troisième voie. Hein? » Autant, on le voit, il y a des formations politiques. Mais encore une fois, faut-il être crédible là-dessus? On a cru qu'on pouvait marcher ensemble en justement se rapprochant sur des enjeux qu'on a dit plus tôt. Or, force était de constater que c'était impossible du moment où est-ce qu'on a vu qu'il s'est repositionné sur ses camps radicaux. Là,
je reviens à ma première question. Ouais. Quand est-ce que vous avez dit « je suis plus capable »
OK, ben quand est-ce, ben écoutez, ça a été rapidement, je vous dirais, rapidement après le 1er octobre, j'ai vu que ça n'allait pas dans la direction à se compter, mais bon, que le mal était fait, comme on dit, puis qu'on ne pouvait pas revenir en arrière. Au niveau, alors il y avait une situation délicate. Mais ça, encore une fois, je vais être en mesure de revenir à votre micro, si vous voulez, après l'élection, dans le contexte, parce que je veux aussi donner suite. Il y a encore des candidatures, il y a des bons candidats locaux de toutes les formations politiques, mais je pense que c'est ça, là, il y a des choses à dire encore. Là,
pourquoi vous n'avez pas décidé, vous, de rester, de vous présenter dans Outremont, de rester parce que il y a beaucoup de gens qui vous ont suivi, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de vous. J'ai reçu plein de textes pour vous, là. Vous êtes populaire, charismatique, vous avez une vision de la ville différente, du français. Pourquoi pas être resté à Outremont?
Ben, pour les mêmes raisons que deux personnes vont cesser de cheminer ensemble parce qu'ils se rendent compte que ça marche pas, ça ne marche plus. Pas qu'ils veulent pas, pas qu'une personne ne veut pas, mais simplement parce qu'à un moment donné, il y a aussi une question de principe, une question d'intégrité, une question de respect de soi-même là-dessus. C'était déjà une grosse déclaration, un grand geste que de mettre le mérite. Ben, pas que j'avais des chances de devenir maire en 2021, mais de tasser ça, de me retirer pour essayer de consolider une alternative que je croyais sincèrement de bonne foi qui pouvait marcher. Moi, j'étais sûr que si on jouait nos cartes comme il faut, qu'on pouvait être à 20% au mois d'octobre, justement récemment, 20 et un peu plus même, pour vraiment venir talonner Coderre et Plante. Parce que les gens sont tannés, justement, les gens sont déçus, puis je m'excuse en mon nom personnel d'avoir trahi certaines personnes qui croyaient en moi. Mais ce que je leur dis, c'est qu'il y a un contexte dans tout ça, et ce n'est pas la fin du monde. OK, il n'y a pas eu mort d'homme. C'est dommage, c'est triste, c'est dommage. Mais encore une fois, avant que ça se passe, très peu de personnes, à part vous, Mme Stanké, parlaient de moi, parlaient de nous. Il y avait même des journalistes qui disaient qu'il y avait juste trois personnes dans la course. Puis j'appelais le journaliste pour demander pourquoi vous n'avez pas parlé de moi. On avait telle idée dans notre programme. Ah non, c'est mon chef de pépite qui a dit que de juste en nommer trois. Les bras me tombaient. Je veux dire, dans quel pays sommes-nous pour couvrir médiatiquement comme ça? On était en Russie. C'est quoi, là? Tu sais, c'est quoi la joke, sérieusement? Pourquoi qu'on fait subir ça à l'électorat? C'est sûr, tu sais, si je suis pas un parti crédible, ben, je suis un tiers parti. Si je suis pas un tiers parti, ben, les deux partis principaux sont là. Alors, voyez-vous tout le narratif? C'est très frustrant, parce que toute énergie qu'on a mis là-dedans, ben, on se rend compte que finalement, ça n'arrive pas à bon port. Pourquoi? Parce que on n'est pas vu à la hauteur de la qualité de notre message.
Alors, est-ce que vous pensez qu'on donne exactement, on dit quoi faire à l'électorat au niveau des médias?
Oh mon Dieu, Madame Stanké, je crois que il y a... Ben écoutez, je pense que l'intérêt du public doit revenir à l'avant-scène et non pas l'intérêt des corporations. Disons ça comme ça.
Alors, on doit se quitter. Juste avant, vous avez dit au début, juste une phrase.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Vous avez dit que vous reviennent. C'est pas terminé. Ce qu'on entendre, d'ailleurs, parce que cette fougue-là, cette passion que vous avez, il faut pas la perdre. Il y a très peu de gens qui ont cette fougue-là en politique et cette passion. Vous avez dit, c'est pas terminé. Ça sera dans quoi?
C'est pas terminé, mais encore une fois, ralliement pour Montréal, le mot rallier les gens, c'est une des tâches les plus difficiles en politique. Souvent, les partis, ce qu'ils font, c'est qu'ils divisent les gens pour gagner. Moi, je veux les rallier pour gagner.
Donc, on vous reverrait dans...
Ben, écoutez, je pense que c'est certain que là, on prend une pause, mais le parti existe encore. Et sachez, Mme Stanquet, que je suis déjà en contact avec des gens pour la suite des choses. Et d'une façon ou d'une autre, vous allez me revoir dans l'actualité politique, c'est clair.
Merci Marc-Antoine Desjardins. Un grand merci.
Merci à vous. Merci. Plaisir.